Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, plusieurs mobilisations annoncées pour le jeudi 12 octobre à Rennes. Deux interviews, d'abord en compagnie d'une coprésidente du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui vient de terminer son mandat. Puis autre interview pour annoncer le festival alimentaire dans le département à partir du 15 octobre. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation des ateliers cirque parents-enfants pendant les vacances. Bienvenue dans l'arène. Alors aujourd'hui et demain, je commencerai l'émission en vous présentant nos deux volontaires en service civique. Je leur ai demandé de se présenter façon questionnaire de Proust, une façon de vous présenter et ceux que vous entendrez dans les émissions de Canal B jusqu'en mai 2024, et puis de leur permettre de s'initier au montage radio. On commence avec Corentin Petitclerc. Vous découvrirez ses reportages et ses interviews dans les émissions La Reine, mais aussi Crème de la Crème.
Bonjour Corentin. Nouveau service civique à Canal B, y a-t-il un morceau qui te représente ?
J'aurais trop de mal à choisir un seul morceau pour me définir. La musique, ça a une place importante dans ma vie, donc j'écoute vraiment pas mal de choses différentes, puis je navigue dans les styles. Mais si je devais choisir quels sont mes styles à moi, je dirais peut-être en premier la musique qui se chante et qui se joue à plusieurs. Un genre de reprise de chant révolutionnaire complètement improvisée, avec des paroles qu'on crie, puis avec les instruments qu'on a sous la main. Je pourrais aussi parler de la cumbia, c'est un style auquel je m'intéresse de plus en plus en ce moment. Il y a par exemple le grand classique Cumbia del Monte de Pedro Laza y sus Pelayeros, et plus particulièrement la version reprise par le groupe Ska Cubano. Je trouve que ce morceau, il représente parfaitement ce que j'aime dans la cumbia. Plein d'instruments, un rythme qui bouge et beaucoup de sourires. Sinon, je peux pas ne pas en parler. Je suis un grand fan de dub et je pourrais pas citer un titre précis qui représente tout ce qui me plaît dans ce genre musical. Mais je pourrais citer le groupe Stand Eye Patrol parce que ça a été un des premiers groupes de dub que j'ai écouté et qui du coup m'a fait découvrir et apprécier ce style. Au point qu'aujourd'hui j'ai du mal à écouter autre chose. Il y a le morceau Speakerbox de Stand Eye Patrol qui m'a mis une grosse claque quand j'ai découvert et qui illustre bien les sonorités que j'aime retrouver dans ce style de musique.
Un film qui te représente ?
Je suis pas un grand connaisseur en matière de cinéma, mais je dirais que souvent, j'aime bien les road movies et les films dans lesquels on peut avoir une lecture politique. Par exemple, je trouve que Thelma et Louise, c'est un film vraiment chouette, à la fois dans le scénario, dans l'ambiance, la bande-son, les actrices, le message politique. Mais sinon, je suis plutôt style film d'animation. C'est ce que je vais regarder le plus facilement. J'aime beaucoup tout ce qui est possible de faire avec l'animation. Puis le plus souvent, c'est pas compliqué à comprendre et c'est marrant. Pour moi, le plus grand classique du cinéma, ça reste Shrek.
Et bienvenue à Fort Fort Lointain. C'est génial ça, non ? Je sens qu'on va se la péter caviar champagne et qu'on va manger dans des os en platine. Bouge pas de la poulette, on te ramasse en retour.
Une ambiance sonore dans laquelle tu te sens bien ?
J'adore être dans les endroits où il y a de la vie et du monde. Rien que dans ma maison, on est 10 colocs et il y a toujours du monde qui passe. Du coup, le genre d'ambiance sonore que j'aime, c'est quand on peut entendre qu'on est dans un endroit où les personnes qui sont là, s'apprécient. Il y a des gens qui parlent, qui rigolent, un petit fond de musique. Je crois que j'aime pas trop les ambiances calmes. Surtout le calme de quand il y a du monde dans une pièce et que personne n'ose rien dire.
Une passion ?
Ça fait depuis que je suis tout petit que j'aime beaucoup la musique. J'ai commencé en prenant des cours de trompette, puis j'ai pris des cours de saxo et ensuite j'ai appris le piano. Jouer des instruments, c'est un truc qui m'a toujours fait du bien. Et j'ai toujours l'envie d'apprendre à en jouer de nouveau. Même le solfège, la théorie de la musique, c'est un truc qui m'a toujours bien intéressé. J'ai toujours fait beaucoup de musique par passion et pour le plaisir, sans vraiment créer des choses concrètes. Mais je me suis mis il y a 2 ans à composer sur mon ordinateur, à faire des vrais morceaux, à commencer à monter un projet un peu plus sérieux, où je joue, je fais du live et je passe mes productions dans les soirées. Et ça, c'est vraiment le top de pouvoir jouer des morceaux à toi, de voir les gens qui dansent devant ce que tu joues. Ça fait vraiment plaisir et puis ça donne envie de continuer, c'est trop cool.
C'était Corentin, volontaire en service civique à Canal B, avec qui on reste pour la traditionnelle info du jour.
L'info du jour qu'on a retenu pour vous, ce sont 3 mobilisations différentes organisées à Rennes dans la même journée, jeudi 12 octobre. Premier rendez-vous à 11h devant la Maison de l'Europe, place du Parlement de Bretagne, avec un rassemblement contre la réautorisation du glyphosate. C'est ce vendredi 13 octobre que les États européens se prononceront pour ou contre la réautorisation de ce pesticide dont les dangers sur la santé et la biodiversité ne sont plus approuvés. D'où la mobilisation des collectifs Eau et Rivière de Bretagne, la Passiflore, UFC Que Choisir, Vitré Tuvalu et le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Ils demandent à l'État français, se présentant souvent comme le meilleur élève de l'Europe en matière de protection de l'environnement, de concilier les paroles et les actes. À midi, on se rend place de la République avec un rassemblement initié par la Fédération des acteurs de la solidarité. Ce groupement d'associations d'aide aux personnes précaires souhaite dénoncer le manque de considération de l'État envers les métiers du social. Dans un contexte d'inflation, le nombre de personnes qui ont recours aux aides de ces associations augmente alors que les moyens alloués aux acteurs de la solidarité baissent. Les associations alertent, elles ne peuvent plus assurer leurs engagements dans de bonnes conditions. D'où cette journée de mobilisation qui est nationale jeudi 12 octobre. Enfin, à 18h, dernière mobilisation de la journée de jeudi sur le parvis du 4 bis, près de l'esplanade Charles de Gaulle. L'association France-Palestine Solidarité 35 organise un rassemblement pacifique contre la barbarie. Dans un contexte extrêmement tendu, suite à l'attaque du Hamas en Palestine qui a fait plus de 1000 morts côté Israël, l'association France-Palestine Solidarité 35 appelle à soutenir les civils palestiniens face à la contre-offensive d'Israël en bande de Gaza, alors qu'on compte aujourd'hui plus de 900 morts sur ce territoire. Dans un communiqué, l'association brétilienne a par ailleurs réaffirmé son soutien à la résistance du peuple palestinien contre l'occupation et la colonisation israélienne. Voilà pour l'info du jour, et maintenant on retrouve Lucie pour une première interview.
Oui, interview en compagnie de Valérie Masson-Delmotte, qui était l'invitée du Mardi de l'Espace des Sciences du 10 octobre, et que je laisse se présenter.
Bonjour, je suis Valérie Masson-Delmotte, donc je suis chercheuse en sciences du climat au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Paris-Saclay. Et puis, donc, de formation physicienne. Et j'ai supervisé de 2015 à 2023 un ensemble de rapports d'évaluation vis-à-vis du changement climatique, des risques et des options d'action et de réponse dans le cadre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat.
Vous êtes paléoclimatologue. Comment on explique concrètement ce que ça veut dire ?
Alors, en fait, paléo, c'est passé, et climat, c'est l'étude du climat. Et donc, c'est un des aspects qui fait avancer les connaissances sur le fonctionnement du climat. Donc, on s'appuie sur les observations actuelles, au sol et par satellite. On s'appuie sur la compréhension des processus physiques, chimiques, biologiques. On s'appuie sur tout un travail de compréhension théorique, de modélisation, et sur ce qu'on tire comme connaissance de l'étude des climats passés avant qu'on ait des mesures directes. Ça veut dire, en fait, on va exploiter toutes les manières invisibles dont en permanence les variations du climat s'impriment dans les anneaux de croissance des arbres, dans les informations enregistrées dans les glaciers, au fond des lacs, dans les sédiments marins. Et donc c'est aller extraire ces informations, dater ces archives, quantifier les variations climatiques. Et chaque nouvelle information, c'est comme une pièce de puzzle qui nous permet finalement de reconstituer et de comprendre l'histoire des variations naturelles du climat.
Vous avez été coprésidente du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, pendant 8 ans. Ce groupe, je pense que les auditeurs, les Français, ont entendu son nom évoqué de plus en plus couramment dans les médias dominants, dans le paysage français. Pour autant, concrètement, c'est peut-être dur de se rendre compte ce qu'a réalisé ce groupe, au-delà du rapport qui est assez médiatisé aujourd'hui fréquemment.
Oui, donc c'est donc un groupe d'experts qui a été mis en place dans les années 80, suite à l'observation d'ailleurs de la destruction de la couche d'ozone et du besoin d'informations scientifiques fiables communes à tous les pays du monde. Donc c'est la même chose mais pour le climat. Donc c'est rattaché au programme des Nations Unies pour l'environnement et à l'Organisation météorologique mondiale. Et donc les réunions plénières du GIEC, c'est des réunions qui mobilisent des représentants de tous les pays du monde, avec 34 personnes qui sont choisies par cette assemblée pour fournir un état des lieux scientifique de manière transparente, rigoureuse et neutre. Donc notamment, le GIEC ne fait pas de recherche, il s'appuie sur l'évaluation de l'état des connaissances scientifiques, et c'est le travail de centaines de scientifiques qui vont passer en revue de manière critique l'état des connaissances, le formuler, et puis à la fin, on va distiller, donc c'est des rapports qui vont faire des centaines, des milliers de pages, un résumé d'une trentaine de pages dit à l'intention des décideurs, qui lui-même fait l'objet d'une relecture et d'une approbation par les représentants de tous les pays. Alors je peux vous dire que quand vous avez les différents pays du monde qui regardent un texte scientifique, bien sûr, leurs enjeux géopolitiques sont très contrastés, donc c'est un super exercice critique qui permet de s'assurer d'avoir des synthèses qui soient équilibrées, et exprimer de manière la plus claire possible, et avec des éléments qui sont extrêmement solides. Et puis, la production des rapports du GIEC stimule la production de nouvelles connaissances. Les scientifiques dans le monde entier publient leurs travaux avant la finalisation des rapports pour les nourrir. Ça contribue aussi à la maturation de l'état des connaissances, parce qu'en fait, quand on fait un rapport du GIEC, on regarde ce qui est robuste, hein, et puis on regarde également pourquoi parfois on ne peut pas conclure, parce qu'on a des éléments parfois contradictoires, incomplets, imparfaits, qu'on ne comprend pas complètement comment ça fonctionne. Et on regarde aussi quelles sont les limites des connaissances. Et souvent, je dis aux jeunes scientifiques, la première chose à lire, c'est la fin, les sections où on dit voilà les limites de ce qu'on peut évaluer, parce que c'est ça qui sera extrêmement motivant pour des parcours professionnels qui vont repousser ces frontières de connaissances. Et enfin, le GIEC est neutre, hein, ne fait pas de recommandations. En fait, ce qui est fait, c'est examiner chaque option d'action, son potentiel, ses limites, ses effets indésirables, ses autres bénéfices pour d'autres aspects que simplement le changement climatique, et le fournir de manière factuelle et transparente.
Comment est-ce que la chercheuse que vous êtes sort de presque 10 ans comme coprésidente de ce GIEC ?
Avec le sentiment du travail accompli, pour moi ce qui était essentiel, c'est fournir des rapports qui soient scientifiquement justes, c'est-à-dire qui reflètent vraiment de manière la plus précise possible l'état des connaissances à un moment donné. C'est aussi le fait de rendre ces connaissances les plus accessibles possibles. Donc on a fait un gros travail, par exemple avec un atlas interactif, pour pouvoir naviguer dans les données évaluées dans les rapports du GIEC, des fiches de synthèse par région, par secteur. Et puis on a d'autres acteurs qui ont digéré finalement ces rapports du GIEC pour les rendre accessibles. Un résumé pour les décideurs urbains, un résumé pour ceux qui font l'analyse de risque, les actuaires, un résumé pour tous, grand public. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est comment cet état des connaissances fait évoluer également par une appropriation des politiques publiques.
Peut-être justement sur les politiques publiques, quel est votre état d'esprit là, donc à la sortie de ces 8 années à la coprésidence du GIEC, avec un message qui, avec les années, est devenu plus présent dans les médias les plus connus en France, mais où à l'échelle politique, dans le discours, le message est entendu, pour autant, est-ce qu'il est entendu à la hauteur des enjeux qui se cachent derrière ?
Alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui parlent des rapports du GIEC et qui ne le regardent pas. Et donc j'espère que notre échange, là, il peut donner envie à des personnes d'aller sur le site en anglais ipcc.ch, d'aller chercher par exemple les traductions en français, puis de voir ce qui est vraiment le travail sous-jacent. Et par ailleurs, donc, ce que l'on voit, c'est la difficulté parfois pour des décideurs politiques de vraiment s'approprier cet état des connaissances et en agir à la hauteur des enjeux. Donc je veux témoigner de 2 expériences. La première, c'est à la COP21, dans la rédaction de l'accord de Paris sur le climat. Les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur quel devrait être l'objectif majeur, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, proche de 1,5 degré. Donc, ils demandent au GIEC de faire un rapport spécial sur cette thématique-là. Qu'est-ce que ça implique sur la radicalité, finalement, des transformations à mettre en œuvre? Et qu'est-ce que ça implique sur vraiment des choses majeures en termes de soutenabilité pour nos sociétés, pour les écosystèmes? Donc on fait cette évaluation rigoureuse. L'approbation est très compliquée, notamment parce que les pays producteurs de pétrole, et en premier lieu l'Arabie Saoudite, menacent finalement de ne pas approuver le rapport et finissent par céder compte tenu de l'ampleur des connaissances qui est après. Ben, donc c'était la Russie de Poutine, l'Amérique de Trump et les Saoudiens, alliés au Koweït, qui ont tout fait pour évacuer les points clés de ce rapport des décisions de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui est l'espace de négociation internationale. Et c'est seulement quelques années plus tard, à la COP26, organisée par le Royaume-Uni, qui, à l'époque, s'appuyait sur les éléments scientifiques, qui en ont repris les points clés, et notamment le rythme de baisse des émissions qui serait nécessaire cette décennie, simplement pour tenir les objectifs que les pays eux-mêmes se sont fixés. Donc on voit bien là qu'on est sur des choses difficiles, dans le cadre international des politiques publiques, avec une vraie difficulté à agir à hauteur des connaissances et des enjeux.
Le dernier rapport de synthèse du GIEC, il date du mois de mars 2023, c'était le sixième, qui arrive avant la COP28, attendue à Dubaï pour la fin de l'année. On vous retrouve là au moment d'un mardi de l'espace des sciences, ici à Rennes, pour discuter avec le public plus en détail de toutes ces questions. Peut-être redire le sujet de l'impact du changement climatique. Il y a encore quelques années, il était présenté comme lointain, d'imaginer les sécheresses, d'imaginer l'impact sur des populations qui seraient forcées à migrer. Là, on parle d'un sujet, finalement, qui arrive plus vite que prévu sur la table et dont les conséquences sont visibles aujourd'hui.
Les conséquences, elles sont visibles partout. Là, au moment où on parle, il fait 30 degrés en France, on est le 11 octobre. Et donc, ça s'inscrit dans un cadre où on a des épisodes chauds qui s'intensifient, plus fréquents, plus intenses, depuis le printemps jusqu'à l'automne. L'été, des surmortalités de masse pour les personnes fragiles, pour les arbres, en mer, en Méditerranée, les gorgones, ou dans les océans tropicaux, les coraux. Donc on est vraiment sur des conséquences qui s'aggravent et qui touchent chaque région du monde. Et si on regarde entre 1990 et maintenant, pour moi, ce qui est frappant, c'est que d'abord, les connaissances ont progressé. Et puis, entre-temps, comme on n'a pas agi suffisamment tôt, on fait l'expérience de ces pertes, de ces dommages qui s'accentuent. Et par ailleurs, si on regarde dans les rapports du GIEC, il y a une vision assez claire des conditions qui sont indispensables pour pouvoir éviter des risques ingérables, et notamment une baisse très rapide des émissions de gaz à effet de serre. Le fait d'utiliser les connaissances sur le climat à venir pour renforcer les capacités d'adaptation, ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, et même en France, pas de manière systématique, pas dans un cadre juridique. Et donc ça pose vraiment la question de aller plus vite dans l'utilisation de ces connaissances scientifiques pour pouvoir construire finalement des sociétés, une gestion des écosystèmes qui soit plus résilient, éviter des actions qui, dans l'urgence, pourraient sembler des bonnes idées puis qui se révèlent contre-productives, ce qu'on appelle la maladaptation, et construire des transitions qui soient justes et qui s'appuient sur les trois grands leviers d'action identifiés, c'est-à-dire de l'innovation technologique, bien sûr, mais aussi une maîtrise de la demande, c'est-à-dire l'efficacité, la sobriété, en énergie, en matériaux, en eau, en utilisation des terres. Et puis enfin, s'appuyer sur des écosystèmes et leur capacité en particulier à stocker du carbone. Et plus on limite le réchauffement à un niveau bas, plus en fait on a un portefeuille de solutions possibles. Mais plus le niveau de réchauffement va monter, plus on va perdre des options d'action. Et ça, c'est quelque chose qui ressort assez nettement.
Aujourd'hui, le réchauffement climatique est déjà là. On est à plus 1,1 degré par rapport à la période pré-industrielle. Question presque personnelle. On dit quoi à mon frère qui pense que agir est devenu vain lorsqu'on regarde à l'échelle mondiale un monde qui n'est pas prêt à bouger, des émissions de CO2 qui sont toujours en train de battre des records, qui sont toujours en croissance?
Alors, il y a quelques décennies, il y avait tout un discours de marchand de doute qui était centré sur le déni. C'est-à-dire, non, le changement climatique n'existe pas, non, c'est pas dû à l'influence humaine, non, c'est pas grave, et c'est plus tenable. On voit tous en fait les conséquences graves, notamment par des événements extrêmes comme les vagues de chaleur les plus intenses ou les sécheresses, ou les conditions propices aux incendies qui s'aggravent, ou des effets chroniques, le recul des glaciers, l'accélération du rythme de montée du niveau de la mer, dont on ne voit pas encore tous les effets. Et donc, on navigue maintenant dans un monde où on a un ensemble de discours d'inaction. C'est-à-dire, c'est nourrir son égoïsme. Hein, moi, je vais garder ma manière de vivre, je ne vais rien changer. Ou à chaque fois, on va soit maximiser les effets indésirables des différents leviers d'action.
On les redonne, les trois leviers d'action déjà évoqués. Il y a l'innovation technologique, la maîtrise de la demande et puis la préservation des écosystèmes. On poursuit sur la question des discours d'inaction.
On va mettre l'accent sur ceux qui ont une responsabilité encore plus importante que soi-même pour essayer de se dédouaner de sa propre responsabilité ou faire croire qu'on y arrivera avec simplement des incitations et puis pas de changement de choses qu'on arrête de faire. Voilà. Et donc je pense que la chose importante, c'est arriver à comprendre, à donner sens à tous ces discours qui sont autour de nous et qui finalement empêchent de voir la capacité d'action qui est là. Et elle est présente, pas uniquement à l'échelle individuelle, mais d'une manière structurante par les politiques publiques, à l'échelle européenne, nationale, à l'échelle des communes, et puis par des choix également qu'on peut faire dans un cadre professionnel et personnel. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de montrer que ces leviers d'action, c'est pas agir pour le climat, la plupart des gens s'en fichent, mais c'est par exemple améliorer la qualité de l'air, avoir une activité physique au quotidien, c'est améliorer le confort thermique dans les lieux où on vit, où on travaille, c'est maîtriser ses dépenses de fonctionnement parce qu'on réduit la consommation d'énergie, on est plus indépendant de pays qui ne sont pas bienveillants par rapport à nos démocraties, en passant. Voilà. Et donc, arriver à montrer finalement que ce dont il s'agit, c'est pas simplement d'agir pour le climat, mais c'est construire en fait un développement qui soit dans l'intérêt de chacun, qui s'appuie sur des écosystèmes qui fonctionnent bien pour bénéficier de leurs services. Et en réalité, beaucoup de gens sont attachés à des choses qu'on veut préserver et transmettre, des forêts, des plages par exemple, et ça devrait être un formidable moteur pour justement se mettre en mouvement, décider de réduire les émissions collectivement ou à l'échelle de sa propre famille. Et après, quand on se met dans cette démarche-là, on voit que ça fonctionne, ça donne envie de continuer à agir. Et donc, pour continuer à répondre à votre frère, vraiment, la chose importante pour moi, c'est se mettre en mouvement et se percevoir, non pas comme spectateur passif d'une forme de fatalité, mais comme acteur de transformation, en ayant une bonne compréhension de ce qui est possible de faire à différents niveaux et des besoins de changement structurel.
On a cité certains des mauvais élèves à l'échelle mondiale, les États-Unis, la Chine. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays dont il faut suivre l'exemple? Est-ce que la France, où on a un esprit critique assez marqué, est finalement plutôt dans une des meilleures dynamiques à l'échelle mondiale?
Alors, si on essaie de regarder, c'est toujours une histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. Et souvent, ce qu'on entend d'ailleurs, c'est ce qui se passe en France pèse pas tellement, parce qu'en fait, la France, c'est que 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre, selon qu'on regarde sur notre territoire ou avec ce qu'on importe et notre consommation. Et en réalité, dans le monde, la majorité des émissions provient de pays qui ne représentent que 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'on a des histoires de réussite. Dans les années 70, la France est sortie essentiellement du charbon, donc parc électronucléaire, hydroélectricité, donc suite au choc pétrolier, normes pour la performance des logements, la performance des véhicules. Et puis, depuis une décennie, de nouveau, en fait, on a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris en tenant compte de nos importations. On a des solutions technologiques qui sont maintenant disponibles, qui sont des enjeux, en fait, d'opportunités économiques, d'emploi pour l'avenir. Et donc, construire un cap résolu de transition dans tous les secteurs, c'est aussi avoir une vision, avoir un cadre pour les investisseurs, pour les industriels, pour les services, qui seront créateurs d'emplois. Si on ne le fait pas, ben on va juste acheter des choses faites ailleurs par des industriels qui seront plus performants en Chine ou aux États-Unis d'ailleurs. Et enfin, donc la dernière chose, c'est ensuite, on a le côté sobriété et efficacité. Et en France, il y a une culture de bon sens, de l'utilisation, de la réutilisation, de la seconde main, qui peut être favorisée par ce qu'on peut faire par Internet, en plus de ce qui était faisable localement auparavant. On voit que la réflexion sur la sobriété percole. Par exemple, l'Académie des technologies a rendu un rapport sur l'importance de la sobriété. Et puis le troisième volet, c'est l'attachement au milieu naturel, à la qualité de l'environnement autour de nous et à la volonté de préserver la capacité de la végétation, des sols, mais aussi des écosystèmes côtiers à persister et à nous rendre ce service de stocker du carbone. Donc je pense qu'on a des leviers d'action qui sont assez formidables et que souvent c'est présenté comme une sorte de marche d'escalier. Alors qu'en fait, on pourrait s'inscrire dans une histoire d'un début de réussite qui ne demande qu'à s'amplifier. Et j'aime bien parler des chocs pétroliers des années 70, parce que par exemple, aux Pays-Bas, c'est ce qui a permis de transformer des villes qui, comme ici, avaient été pensées uniquement pour la voiture, en villes cyclables, dont on voit maintenant les effets très positifs en termes d'espérance de vie en bonne santé, et qui sont inspirants, avec des capacités à transformer aussi plus rapidement dans cette direction-là.
Ce mardi, vous êtes donc à l'Espace des Sciences dans un exercice de vulgarisation auprès du grand public, et c'est vraiment une des pattes de l'Espace des Sciences, cette structure rennaise. Parce qu'à la base vous êtes chercheuse, est-ce que c'était déjà un peu dans votre ADN avant d'arriver au GIEC, ou est-ce que ça fait partie un peu de cet outil-là aussi, d'apprendre à rendre les informations accessibles au grand public?
Alors moi j'aime pas le terme de vulgarisation, mais j'aime bien le côté partage de connaissances. Et ça fait partie du métier de scientifique de produire et partager des connaissances, hein. Ça fait vraiment partie de nos missions. Et moi, j'ai commencé à le faire quand j'étais étudiante en doctorat, en fait, hein. Très vite, j'ai mesuré le fossé qu'il y avait entre ces connaissances scientifiques, ce que je savais moi-même, ce que connaissaient mes proches, mes amis autour de moi. Et donc, toutes les occasions de partage, les visites de labo, les fêtes de la science, les espaces des sciences, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une chance. Et mon expérience passée à l'Espace des Sciences à Rennes, c'est aussi que ça permet de construire des échanges avec un public très varié, qui vient justement parce qu'il est attaché à la capacité à dialoguer, à écouter, sur la base d'éléments factuels, scientifiques. Et là, en fait, moi, je touche pas simplement à l'avancée des connaissances, je touche aussi à des questions profondes sur des choix de société, avec des sujets qui peuvent être clivants. Donc c'est peut-être aussi l'occasion de participer à un partage de culture scientifique, mais aussi des enjeux de vie démocratique.
C'est quoi la question qu'on vous pose le plus souvent ?
C'est quelles sont mes émotions ? Et c'est pas évident, parce que justement, comme scientifique, on essaie de les mettre un peu de côté pour travailler sur des choses factuelles. Et donc, moi, j'essaie de montrer comment on peut justement dépasser parfois le caractère émotionnel lié à la prise de conscience vertigineuse des enjeux du changement climatique, en étant lucide sur ses émotions et pour pouvoir agir de manière responsable.
Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses ? Est-ce qu'il y a des questions importantes que j'ai pas posées ?
Alors, donc la chose qu'on n'avait pas abordée, c'est que je fais aussi partie du Haut Conseil pour le climat, où on est chargé d'évaluer l'action de la France vis-à-vis du changement climatique et de formuler des recommandations. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant parce que pour moi, qui suis scientifique, plutôt sur des sujets de recherche, on va dire, assez fondamentale, c'est très complémentaire parce que c'est ancré dans un pays. Et ça permet en fait de mesurer le décalage entre les politiques publiques actuellement mises en œuvre et les engagements qui ont été pris, avec tout cet enjeu finalement d'approche assez pragmatique pour déployer les leviers d'action qui existent. Donc pareil, on voit des choses qui avancent, mais pas suffisamment vite. Et cette année, on a un enjeu important qui est la structuration d'une trame de référence pour l'adaptation qui n'existe pas jusqu'à présent. Et donc si on se dote de cette feuille de route, ça voudra dire que toutes les décisions, elles devront être examinées en s'assurant que ce qu'on met en place sera résilient dans un climat futur qui continuera à changer. Et puis l'autre chose, c'est dans quelques semaines, la France va héberger un One Planet Summit sur les pôles, les régions enneigées, englacées, en fait également en haute montagne. Et c'est aussi l'occasion de montrer à quel point finalement ça peut sembler lointain, mais c'est les connaissances que l'on a sur ces régions, elles sont extrêmement importantes, par exemple pour le littoral français, qui fait face aux conséquences de la montée du niveau de la mer, qui commence à se mettre en mouvement par rapport à cela. Ça pose beaucoup de questions sur la façon d'anticiper, sur les financements, sur parfois du repli stratégique qui sera nécessaire. Et le premier facteur d'incertitude sur l'ampleur et la vitesse de montée du niveau de la mer, c'est pas s'il y aura 1 mètre de montée du niveau de la mer, mais c'est quand. Et avec cela qui va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir dans le monde, et aussi de possibles surprises d'instabilité de certains secteurs, notamment de l'Antarctique, qui restent très mal comprises. D'où l'importance de bien montrer le lien entre les enjeux ici, par exemple pour le littoral, et le besoin de connaissances pour réactualiser au fur et à mesure, finalement, les réponses, à mesure que les connaissances vont progresser.
Donc vous avez de l'espoir, vous ?
Non, vous avez de la détermination.
Eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
We'll be right back.
extrait de la symphonie antarctique du compositeur britannique Vaughan Williams. C'est la recommandation musicale de Valérie Masson-Delmotte qui vient de terminer son mandat de coprésidente du GIEC durant l'été. Un morceau qui, dans sa version complète, est une symphonie, la 7e composée par cet artiste Vaughan Williams et achevée en 1952. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Peut-être êtes-vous branché en FM sur le 94.0. Vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur le site canalb.fr, un site où on retrouve d'ailleurs l'ensemble des podcasts des émissions de la radio, réalisés par des salariés mais aussi par des bénévoles. Allez, on continue avec une deuxième interview. Nathan Huet, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes volontaire en service civique dans l'association rennaise Xylem qui coordonne le festival alimentaire ici en Ille-et-Vilaine. C'est du 15 octobre jusqu'au 30 novembre avec une quinzaine de propositions près de Rennes et puis bien d'autres ailleurs dans le département. Alors Xylem, le nom de votre asso, ça désigne un réseau de cellules présentes dans les plantes et qui transportent l'eau et les nutriments depuis le sol et vers les feuilles. Et votre mission, en lien avec ce nom que vous avez choisi, c'est d'accompagner les dynamiques de transition économique solidaire et durable. On redit un mot sur les équipes qui bougent un peu selon les périodes.
C'est ça. Alors actuellement, il y a un salarié, bientôt deux, et toute une équipe de volontaires en service civique et volontaires de solidarité internationale.
Vous, vous êtes arrivé au mois de juin, vous vous êtes retrouvé comment dans cette association ?
Écoutez, chercher un volontariat de service civique en rapport avec les solidarités internationales, la coopération internationale. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé l'association.
L'association Xylem, dont le festival alimentaire est sans doute le temps fort de l'année, mais il se passe aussi des choses le reste du temps.
Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une association qui vise à accompagner les transitions en termes économiques, transition énergétique, en mettant en relation des acteurs français avec des acteurs, en l'occurrence, dans des projets au Togo et au Maroc, en partant du principe que les mêmes défis, les mêmes problématiques sont rencontrés dans chacun des contextes et que donc ça vaut le coup de mettre en relation les différents acteurs.
Et pour compléter sur les actions que vous menez, il y a donc à la fois un peu de sensibilisation ici en France, notamment avec la jeunesse, et puis des projets qui sont menés ailleurs dans le monde. Vous avez cité le Togo, où il y a un projet de gestion des déchets, également sur la thématique de l'eau et de l'assainissement, et puis pour le Maroc, un projet dans le champ de l'agroécologie. On arrive à ce festival, le festival alimentaire qui a été lancé à Paris en 2007. C'est aujourd'hui un festival à dimension nationale qui se déploie donc partout en France et même ailleurs dans le monde, notamment en territoire francophone. À Rennes, il est bien installé. On redit à quoi ça ressemblait, par exemple, la dernière édition en 2022. Ça grossit en fait d'année
en
année.
En 2022, ça a été une édition particulièrement réussie, en tout cas en nombre de projections, puisqu'il y en a eu à peu près une centaine. Avec donc ce qui a permis de sensibiliser pas mal de monde sur Rennes et sur toute la région rennaise et le département en général, avec une grosse participation de beaucoup de structures associatives, établissements scolaires, etc. Et on espère que ce sera la même chose cette année.
Une centaine d'événements donc proposés par autant de structures en Ille-et-Vilaine, pour en tout plus de 4000 personnes sensibilisées à ces sujets qui vous tiennent à cœur. L'idée, c'est en fait sur plus d'un mois de mettre en lumière plusieurs films documentaires qui ont en commun de parler de solidarité et d'écologie. Cette année, ce sont 9 films qui sont programmés. Donc, ces films sont programmés et vous, vous recevez des propositions de structures qui vont ensuite organiser des projections localement, des établissements scolaires. On imagine peut-être aussi les bibliothèques, les cafés qui sont mobilisés.
Les cinémas associatifs également, et beaucoup, ouais, beaucoup de structures associatives surtout. Et également les établissements scolaires qui veulent sensibiliser les élèves. Et voilà, on invite évidemment les structures à s'associer entre elles, notamment celles qui ont des moyens d'accueillir des événements et celles qui sont plus partantes pour intervenir, par exemple, ce qui donne des événements avec plusieurs organisateurs.
Et en termes de logistique, c'est compliqué d'organiser des projections? Vous les accompagnez aussi là-dessus?
Oui, c'est ça. En fait, notre rôle en tant que coordinateur du festival, c'est beaucoup dans l'accompagnement technique sur la forme des événements où s'il y a un besoin d'animation, par exemple, on peut être mobilisé. Et oui, c'est ça, démarcher les structures et les accompagner tout au long de la création de ces événements.
Dans les 9 films sélectionnés, il y est pas mal question cette année d'agriculture et d'alimentation durable. Et la caméra nous emmène parfois sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Malawi, également en Europe, par exemple en Belgique, et puis ici en France, dans les Alpes-Maritimes ou encore en Champagne. Je vous ai demandé avant de débuter si vous aviez un coup de cœur, puisque vous avez visionné l'ensemble des films documentaires. Vous nous dites un mot sur celui qui vous a particulièrement plu ?
Oui, alors moi j'ai particulièrement apprécié le film qui s'appelle ZUT, ça veut dire zone urgente à transformer, ce qui se passe en Belgique, et en fait à la frontière avec la France, c'est dans une commune particulièrement affectée par les pesticides, exposée du fait d'une exploitation d'agriculture intensive à côté de la commune. Un groupe de personnes âgées, à partir du principe qu'ils n'ont pas les moyens de faire une ZAD, et donc ils vont préparer une ZUT, et donc mener une série d'actions assez pacifiques et sans grand danger, mais avec humour et avec détermination pour signifier leur désaccord, et ce qui va la mener jusqu'au Parlement européen, par exemple, dans un documentaire qui est très fouillé sur la question des pesticides.
Un film documentaire réalisé par François de Saint-Georges qui est sorti en 2022, ZUT, pour zone urgente à transformer. On écoute un extrait de ce film.
La presse et le monde politique voulaient faire de moi une victime qui se plaignait.
Nous mettrons en IBPJ.
Ah oui, c'est pas mal.
IBPJ, c'est pas mal.
Mais dans notre tête, c'est ce qu'on a.
On a pu mettre en évidence une contamination importante des wallons, avec un wallon sur 4, qu'il soit ado ou adulte, qui est contaminé par le glyphosate.
Ici, ils sont tranquilles, quoi. Ils peuvent grandir et m'aider à cultiver des légumes.
Comment peut-on encore laisser les générations qui arrivent dans un monde aussi nocif?
Extrait du documentaire ZUT pour zone urgente à transformer, un des films qui a été retenu, sélectionné et projeté dans le cadre du festival alimentaire qui se déroule du 15 octobre au 30 novembre. J'ai compté près de 15 propositions ici, en tout cas en région rennaise, sur cette période. Le programme complet, il est à retrouver en ligne sur le site alimentaire.org. Un programme qui est encore en construction, c'est la particularité. Les auditeurs vont peut-être découvrir d'autres propositions après notre échange.
Oui, exactement. Comme je le disais précédemment, c'est du fait que ce sont les structures qui organisent leurs propres événements. On ne peut jamais vraiment savoir, nous, à l'avance, un programme fixe, mais c'est en constante évolution et c'est sûr, il y aura de nombreux événements qui vont se rajouter à ceux qui sont déjà enregistrés à l'heure actuelle.
La première date à venir, ça se passe tout près d'ici, à Rennes, au Jardin des Mille Pas. On est dans le quartier de la Prévalet. Ça se déroule le 22 octobre, dans le cadre d'une fête un petit peu plus large.
Et c'est dans le cadre de la fête de la châtaigne. Et donc, toute la journée, il y aura des activités en rapport avec la châtaigne, mais en rapport avec l'alimentation de manière générale. Et donc, les organisateurs qui en profitent pour diffuser un film du Festival Alimentaire, ce qui est souvent le cas... pour les projections alimentaires où les associations essayent souvent de rattacher, en profitent en fait pour approfondir un sujet qu'ils abordent par ailleurs dans un événement qu'ils organisent annuellement.
Et donc c'est le film Du béton sur nos courgettes qui sera projeté au Jardin des Mille Pas le 22 octobre. Un film documentaire notamment produit par France Télévisions qui est sorti en 2021 et on prend la direction du monde rural des Alpes-Maritimes pour parler des sujets très sérieux d'artificialisation des sols et d'urbanisation par la même occasion. Il y a un autre lieu qui accueille pas mal de propositions ici à Rennes, c'est le café du Babazoula, un café dans le quartier Morpa qui est assez connu pour être engagé sur pas mal de questions, sur la défense aussi de la culture et puis sur des questions plus politiques et militantes de temps en temps. Et là, c'est une association qui s'empare du lieu du café pour proposer tous les mardis une projection différente.
C'est l'association La Nature en Ville, en fait, qui, comme son nom l'indique, défend la nature en général, la biodiversité. Et qui, dans le cadre du festival alimentaire, se mobilise pas mal pour organiser des projections, en l'occurrence en partenariat avec ce bar associatif, ouais, qui va projeter 4 films différents, Je ne me rappelle plus lesquels là tout de suite. Mais...
Je peux les donner. Oui. Le mardi 24 octobre, le public pourra découvrir Du béton sur nos courgettes. Le 31, Les agités du bocage, un film de 2021, où on découvre un groupe de citoyens qui défend les derniers bocages du Nord face aux producteurs de patates. On a parlé du film Zut pour Zone urgente à transformer qui sera diffusée le 7 novembre et on terminera le 21 novembre avec un film sur la révolution verte, Europe, un continent bouleversé, c'est le titre complet. On peut écouter un extrait du premier film à venir, donc diffusé le mardi 24 octobre au café du Babazoula, ici à Rennes, dans le quartier Maurepas, extrait du film Du béton sur nos courgettes.
Lors d'un séjour en Italie, dans la région de San Remo, j'avais été frappé de constater l'incroyable persistance d'espaces cultivés et de serres agricoles. De l'autre côté de la frontière proche, les paysages de mon enfance étaient au contraire abandonnés, urbanisés, artificialisés. Que s'était-il passé au fil des décennies ? Pour que mes souvenirs de gosse soient ensevelis sous une chape d'immeubles, d'entrepôts et de supermarchés.
C'était un extrait du film Du béton sur nos courgettes, réalisé par Arnaud Gobin et Christophe Camoirano. Film sorti en 2021 et à découvrir donc très bientôt, le mardi 24 octobre, au café du Babazoula, ici à Rennes, dans le quartier Maurepas. Et puis ensuite, il se passe beaucoup de choses jusqu'à la fin du mois de novembre. Il y aura des projections à Montfort-sur-Meux, Chevenier, Orgères, Chartres-de-Bretagne, Bru et Brial-sous-Montfort dans l'ordre de projection, et aussi des projections, même plusieurs, du côté du Reux qui, chaque année, en fait, consacre une journée au festival alimentaire, avec donc plein de choses à découvrir au Reux.
C'est ça, c'est l'association Agora au Reux qui, chaque année, fait une journée en rapport avec l'alimentation et qui en profite pour diffuser un film du festival alimentaire. Et cette année, c'est Europe, la révolution verte, si je ne m'abuse, donc qui sera diffusé dans ce cadre-là au Reux.
La révolution verte, Europe, un continent bouleversé, qui un film qui est sorti en 2022, réalisé par Joachim Demmer, et qui sera projeté donc le 18 novembre au Reux. Un regard critique sur la politique agricole européenne en sillonnant différents pays à la recherche de solutions. Mais en plus de ça, on nous annonce aussi un atelier de cuisine voyageuse, la belle récolte, ce sera un événement autour de l'alimentation, et puis un café philo, tout ça c'est proposé par le centre culturel Agora du Reux et il se passera des choses toujours au Reux quelques jours après au lycée Théodore Monod avec là encore deux films du festival alimentaire qui seront projetés, L'Afrique, les OGM et Bill Gates, pour parler cette fois philanthro-capitalisme, une pratique faussement charitable qui sert en fait les intérêts économiques de ceux qui en usent. L'autre film projeté le même jour, c'est Tu nourriras le monde, un historique de la politique agricole commune et du développement de l'agriculture à travers l'exemple du territoire de la Champagne. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une vraie volonté de rendre les projections accessibles avec beaucoup de propositions qui sont gratuites.
Exact. La plupart, en réalité, sont donc ouvertes au public et gratuites. Parfois, il y a une petite contribution qui est demandée, mais c'est minoritaire, donc n'hésitez pas.
Je vous représente, Nathan Huy, vous faites partie de l'association rennaise Xylem, où vous êtes volontaire en service civique, une asso qui coordonne le festival alimentaire à l'échelle de l'Ille-et-Vilaine. Le festival, il se déroule du 15 octobre au 30 novembre, avec une quinzaine de propositions ici, près de Rennes, et puis bien d'autres à retrouver en Bretagne et même en France. La programmation, elle est disponible en ligne sur le site alimentaire.org, et puis vous, avec Xylem, on vous retrouve sur le site internet Xylem. xylm-asso.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Le mambo dans tes yeux, baiser les coquillages, entre toi et le bleu.
L'amour à la plage sur Canal B, interprété par Pierre Omer's Swing Review, une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur musical, et qui fait partie d'un album Tropical Breakdown. C'est sorti chez Voodoo Rhythm Records le 20 octobre dernier, et c'est le deuxième disque de ce multi-instrumentiste mi-suisse, mi-indien, l'un des membres fondateurs du groupe de rock des Dead Brothers. Vous êtes toujours dans l'émission d'info locale de Canal B. Je vous redis un mot sur cette newsletter des désormais lancé depuis le début du mois de septembre. Le courrier de la reine, c'est son nom, c'est une façon de vous présenter les sujets de la semaine sans être sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez vous abonner à cette newsletter, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse lucie@canalb.fr et chaque vendredi, vous recevrez ce courrier avec dedans un reportage, une interview et une info du jour mise en lumière. Et c'est l'heure de terminer cette émission avec la recommandation du jour, des conseils de choses à lire, à écouter, à voir ou encore à vivre, et puis aussi parfois le relais de propositions locales qui cherchent leurs participants. Aujourd'hui, on annonce le prochain atelier cirque parents-enfants qui est organisé par la Plaine de Joie. La Plaine de Joie, c'est une compagnie de cirque rennaise qui propose donc un temps parents-enfants du lundi 23 au vendredi 27 octobre. C'est pendant les vacances et ça se passe à la salle polyvalente de Talensac. On est à un peu moins de 30 km à l'ouest de Rennes. Au programme du jonglage, de l'équilibre sur objet ou encore des portées acrobatiques et tout ça en binôme parents-enfants, enfants à partir de 3 ans. Une façon avec cet atelier de découvrir un autre mode de communication que la parole avec son enfant, de jouer et de créer ensemble et de rire aussi. La participation pour la semaine elle s'élève à 40 euros. Inscription avant le 16 octobre, c'est bientôt, par email à l'adresse laplainedejoie@yahoo.fr ou par téléphone au 06 82 00 90 26. Pour plus d'infos, il y a toujours le site internet laplainedejoie.fr. La reine, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.